Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Bonjour Alexandre Mignon.
Bonjour Patrick Cohen.
Professeur de médecine et anesthésiste réanimateur à l'hôpital Cochin de Paris. Avant de nous parler de cet outil numérique qui pourrait nous aider à reprendre une vie normale dans les mois à venir, dites-nous d'abord quelle est la situation ce matin dans les hôpitaux parisiens et dans le vôtre à Cochin.
Alors écoutez, pour moi c'est un petit peu délicat parce que j'ai fait Covid, hein, j'ai fait une forme relativement importante. Malheureusement j'ai pas eu besoin d'aller en réanimation. Ça m'a donné d'ailleurs beaucoup de recul par rapport à la situation parce que je suis arrêté depuis 15 jours environ. Et donc ce que je voudrais vous dire et ce que j'ai eu tout récemment, c'est-à-dire juste ce matin avant qu'on se parle de la situation, c'est qu'il semble qu'on va probablement être dans la stabilisation. C'est extrêmement tendu. Les professionnels ont fait un effort considérable. On est donc possiblement en Île-de-France et puis aussi au niveau français en haut de la cloche. Alors ça, c'est le résultat de tout un tas de mesures qui sont celles de des mesures de barrières, la distanciation, les masques qui sont quand même et qui ont fini par arriver. C'est aussi le résultat du confinement parce que on le sait maintenant, le confinement en France, ça a probablement sauvé environ 2500 personnes. Et puis c'est celui des soignants, et dans les soignants, je vais bien sûr mettre tous les soignants, les infirmières, les aides-soignants, les directeurs qui ont aidé les médecins qui ont repris en gros ce qu'ils avaient un peu perdu jusqu'à maintenant, à savoir la direction médicale des hôpitaux, pour se réorganiser, pousser les murs, faire des opérations exceptionnelles. On a entendu Gilles Aliannan dans votre journal pour dire les six solutions d'évacuation. En gros, on a reconstitué les taxis de la Marne, monsieur Cohen. Sauf qu'ils sont devenus des TGV, des avions, des bateaux, et qu'on a plutôt fait des migrations vers l'ouest et vers le sud de la France. Mais avec tout ça, on a permis d'augmenter les capacités de réanimation, et ça a été une opération extraordinaire de solidarité, d'énergie, de dévouement. Alors en pratique, oui, si vous voulez, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on a gagné une bataille et on n'a pas gagné la guerre. Pourquoi on n'a pas gagné la guerre? Parce qu'il faut rappeler qu'on n'a toujours pas de traitement. Il n'y a aucun traitement réel. On n'a que du symptomatique. Puis on n'a toujours pas de vaccin. Et donc la menace pour nous maintenant, c'est qu'après que la première vague va s'arrêter, puisque c'est évident, elle a déjà commencé à s'arrêter, notamment en Chine, où vous savez, vous en parlerez tout à l'heure, qu'on ne sait pas exactement à quel niveau elle s'est arrêtée et comment elle s'est arrêtée. Ceci étant, il y aura quand même le risque d'une deuxième vague. La deuxième vague, c'est que des gens qui n'ont pas rencontré de virus risquent d'être exposés au virus et de refaire une maladie, et éventuellement une maladie grave, et éventuellement en mourir.
On va en reparler, mais ce que vous regardez, c'est... pour dire qu'on approche du pic de l'épidémie ou qu'on est au pic, c'est le chiffre des admissions en réanimation. On a cité tout à l'heure le nombre de décès quotidiens toujours plus important, près de 600 morts hier. Mais les admissions en réanimation ont tendance à régresser de 151 hier, alors qu'on était à plus de 400 en début de semaine. C'est ce qui vous...
Oui, tout à fait.
Fait dire qu'on approche du pic.
Voyez-vous, il y a des signaux faibles. Il y a celui-là, il y a aussi des consultations à SOS Médecins. Le professeur Salomon l'a très bien expliqué hier. Et puis le fait qu'on reçoive moins d'appels pour hospitaliser des patients. Donc, et puis surtout l'histoire. L'histoire, c'est que dans tous les autres pays qui sont passés avant nous dans cette pandémie, ben, ils ont tous connu cet aplatissement, puis ensuite cette redescente de la cloche. Et à nouveau, on ne relâche pas la tension. On est sous tension. Bravo à tous les soignants d'un effort absolument considérable. Et on ne relâche pas les efforts, c'est-à-dire on ne part pas en week-end aujourd'hui, c'est les vacances, mais on reste chez soi, on continue le confinement, on fait les mesures de distanciation, on remet en place des mesures de l'hygiène qui sont assez faibles dans notre pays et qu'on devra vraiment étudier en termes de comportement si on doit se comparer aux pays asiatiques par exemple.
Ouais. Encore un mot sur la situation à l'hôpital, professeur Mignon. Qu'en est-il des médicaments, des sédatifs utilisés en anesthésie dont l'utilisation explose en ce moment pour les malades du Covid et dont les stocks sont limités.
Il y a des stocks limités, on fait comme on peut, on attend qu'on nous en fournisse. C'est pas, si vous voulez, j'ai envie de vous dire, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ça que je crois qu'il faudrait qu'on discute ensemble, monsieur Cohen, c'est que on fait comme on peut, hein, c'est dans le monde entier, il y a des initiatives, il y a des énergies, et on voit le meilleur comme le pire. Je préfère me concentrer sur le meilleur. Et donc, en gros, si vous voulez, aujourd'hui, le problème, c'est que la France, elle est à l'arrêt. Elle est à l'arrêt sur le plan économique, c'est fondamental, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant après. Elle est à l'arrêt sur le plan psychologique. Les gens confinés sont des gens qui sont en situation difficile, parce que c'est difficile de rester enfermé chez soi, et ces gens-là ne retournent pas au travail. Et le résultat de tout ça, c'est que le confinement, tenez-vous bien, tuera probablement plus que Covid lui-même. Je vous explique. Si vous êtes confiné, vous ne participez, vous êtes, d'abord, vous pouvez être malade vous-même. Vous êtes mal soigné, ou vous prévenez moins bien les maladies, ou vous faites des maladies vous-même de ce confinement. Et donc, en pratique, il faut bien comprendre que les enjeux aujourd'hui, c'est de savoir comment le président de la République et les autorités vont déconfiner. C'est ça qui est le plus important. Et c'est extrêmement complexe.
Et il faudra, de toute façon, encore plusieurs semaines de confinement, vous l'avez rappelé, hein.
Tout à fait, c'est absolument indispensable, c'est pour ça que je vous dis bien, mesures barrières, masques, et évidemment on part pas en week-end, on continue à se confiner tant qu'on ne sait pas mieux où sont les gens, c'est-à-dire ceux qui ont déjà fait la maladie, qui se sont immunisés et donc qui ne transmettent plus la maladie, ne font plus la maladie, ben voyez, c'est mon cas, qui a envie de partir, de courir, de gambader, mais qui ne le fait pas parce que pour l'instant on ne sait pas exactement dans quelles conditions il faut le faire, et puis ceux qui sont encore Covid moins, naïfs pour le virus, qui l'ont jamais vu encore, et qui s'ils ressortent, sont éventuellement à risque de faire, dans l'immense majorité des cas, 80 à 85% des cas, une maladie ou rien du tout. Et puis pour certains, les plus fragiles d'entre nous, une maladie grave et éventuellement en mourir.
Professeur Mignon, vous restez avec nous. Dans un instant, après une pause, vous allez nous révéler et nous détailler le projet que vous avez mis au point avec d'autres. Covidia, un outil numérique qui permettrait d'accompagner le déconfinement, la sortie de crise et de limiter les risques. A tout de suite.
Europe 1. On vous retrouve, Patrick Cohen, en direct de chez vous pour C'est arrivé cette semaine.
Avec le professeur Alexandre Mignon qui travaille en anesthésie-réanimation à l'hôpital Cochin de Paris et qui travaille aussi sur des solutions qui font appel à l'intelligence artificielle et qui pourraient nous aider dans les mois à venir. Alexandre Mignon, chacun a bien compris que avec les annonces du Premier ministre que le déconfinement aura lieu par étapes, progressivement, sous peine de voir repartir l'épidémie, vous l'avez dit. Comment voyez-vous les choses? Il va falloir vivre encore deux longs mois avec ce virus?
Alors écoutez, c'est le sujet central. Naturellement, l'organisation du déconfinement, c'est une décision politique. Hein. Ça doit être extrêmement complexe. Et je crois que pas grand monde, même en se rasant le matin, a envie d'être à la place du président de la République. Ensuite, je pense qu'il est conseillé par son conseil scientifique, qui naturellement va lui donner toutes les pistes. Ce conseil scientifique, il va lui proposer des solutions, mais il va surtout lui dire qu'en fait, on ne sait pas tout de cette maladie. On en sait de plus en plus. On a des informations qui arrivent de plus en plus vite vers nous, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes. Enfin, il devra l'expliquer aux Français. Et à ce titre, on voit bien qu'il y a eu un effort dans le domaine de la pédagogie extraordinaire. Je pense par exemple aux interventions de notre Premier ministre. Donc en pratique, qu'est-ce que c'est là? Les enjeux sont les suivants. Vous avez en gros trois types de populations. Vous avez les gens qui ont rencontré le virus, qui ont fait soit de manière asymptomatique, soit une maladie. Donc il n'y a pas eu de symptômes ou il y a eu des symptômes. Ils ont guéri. Ils ont développé une réaction contre le virus, ils sont maintenant ce qu'on appelle immunisés, ils ne refont pas la maladie ne passera plus par eux.
Professeur, on en est sûr maintenant qu'il y a immunité. Alors, pour ceux qui ont rencontré le virus. Hein. Il y a des études.
Je vous ai dit, le conseil scientifique devra expliquer au président qu'il y a des incertitudes. Celle-là n'en est quasiment plus une, mais elle devra lui indiquer qu'on a de très très fortes raisons de penser que l'immunité est présente, qu'elle bloque le virus, qu'elle est d'une durée, pour l'instant, vous voyez, il faut du recul, parce qu'on peut pas vous dire de combien de temps elle dure. Vous vous rappelez que la maladie n'a commencé qu'il y a quelques semaines. Mais néanmoins, l'immense majorité des chercheurs considèrent que elle sera neutralisante et qu'elle sera d'une durée relativement longue, un peu comme une vaccination en fait, si vous voulez. Ces gens-là doivent pouvoir reprendre une vie normale. Et ces gens-là doivent participer d'abord à revivre normalement eux-mêmes, à être heureux, à courir, à travailler, et puis donc à relancer l'activité économique qui est essentielle. Le deuxième type d'individus, c'est les gens qui n'ont jamais rencontré de virus. Au fin fond de la Creuse ou du Limousin, il y a beaucoup de gens, l'immense majorité des gens n'ont pas vu le virus. Et ces gens-là sont dit Covid-neg. Et à l'intérieur de ces gens-là, il y a deux types de profils. Il y a des profils de gens qui sont extrêmement fragiles, les sujets âgés, les sujets qui ont des comorbidités. Ceux-là, il faut les protéger un maximum et ceux-là probablement devront rester confinés plus longtemps que les autres. Et puis vous avez ceux qui sont les Covid moins mais solides, c'est-à-dire les gens qui sont les jeunes, qui n'ont pas de facteurs de risque, et ceux-là qui devraient pouvoir, en tout cas si on arrive à aider et à cartographier ces gens-là, eh bien retourner dans la vie normale. Et puis au milieu, vous avez une population contact. C'est une population qui a été en contact, qui était Covid neg, et qui a été en contact avec des Covid plus, et dont pour l'instant, on ne sait pas très bien ce qu'on fait. En Corée ou à Singapour, avec les outils numériques de traçage dont vous entendez beaucoup parler, parler, qui sont extrêmement intrusifs, on les retrouve, puis ensuite on les met en confinement, on laisse passer 14 jours à 21 jours, le temps qu'ils puissent ne pas développer, qu'on soit sûr qu'ils n'ont pas développé la maladie, qu'ils soient eux-mêmes contagieux, et puis on les laisse repartir dans leurs activités. Donc, si vous voulez, quoi qu'il arrive, il y aura je vais vous expliquer comment on peut le faire avec les techniques d'intelligence humaine, collective et artificielle. Donc, quels que soient les choix, il y aura de toute façon encore du confinement à court terme, maintenant, toujours et encore plus les masques, les mesures barrières, la transformation du mode de vie et de l'hygiène, parce que regardez les images et les photos de ce qui se passe à Singapour, en Corée ou en Chine, ou même au Japon. Et puis, enfin, il y aura trois options, d'après nous. Trois options, c'est on fait des tests massifs. Les tests massifs, Monsieur Cohen, c'est tout à fait impossible. Ça prendrait plus d'un an en France pour que tous les Français soient testés. Ça coûte excessivement cher, c'est difficile à mettre en place.
Un an, même si on en fait beaucoup, je sais pas.
Mais oui.
500 000 tests par semaine, oui, il faudrait un an et demi pour tester toute la population française.
Absolument. Et les tests, bien sûr, on parle beaucoup des autotests. Mais le problème de l'autotest, c'est qu'il sera fait à la maison et qu'il faudra qu'il y ait quand même des contrôles de qualité. Et le plus important d'entre eux, c'est que ça soit bien la personne qui fait le test, qui soit sur la petite carte du test. Parce que vous comprenez bien que si les gens ont de plus en plus envie d'être considérés comme des Covid plus, ben on peut organiser un petit système où vous donnez votre sang à beaucoup de petites machines pour dire que l'autotest c'était vous, mais c'était aussi votre famille, votre immeuble et tous vos amis. Donc c'est un peu compliqué. La deuxième solution pour déconfiner, c'est le déconfinement avec les techniques de traçage numérique. Et je crois que la France n'est pas prête pour ça. En gros, on met dans vos téléphones portables des solutions numériques qui vous tracent et qui permettent, certes, avec des bonnes intentions en termes de santé publique, de retrouver les gens que vous avez éventuellement rencontrés dans les 14 jours qui précédaient et qui sont devenus positifs. Et dès lors, on vous surveille, on vérifie que vous ne faites pas la maladie et on vous empêche éventuellement de la transmettre à quelqu'un d'autre. Et puis enfin, vous avez
l'Allemagne s'engage dans cette voie,
Mais écoutez,
la France paraît s'engager dans cette voie. Oui.
Patrick Cohen, la France, c'est la France. Les Allemands, ils font ce qu'ils veulent, mais je pense pas, et là, je vous le dis à titre personnel. Moi, en tout cas, je vais voir ça d'un très mauvais œil que quelqu'un me pousse des applications dans mon téléphone portable, pour regarder ce que je fais, même si j'ai rien à cacher, j'ai rien à me reprocher. Je suis pas sûr que les Français soient capables de le faire, c'est d'autant qu'il y a beaucoup de trous dans la raquette. Il y a des gens qui n'ont pas de téléphone, ça n'empêchera pas les gens de descendre d'acheter le pain sans leur téléphone, et il y a des zones qui ne voudront absolument pas et qui se rebelleront contre l'installation de ces solutions. Et donc, c'est pour ça que nous, on pense que le président de la République et le conseil scientifique devraient faire appel à notre, ou en tout cas nous solliciter, on n'est pas tout seul, il y a plein d'initiatives très intéressantes, dans un projet que nous avons appelé Covidia. Alors Covidia, est-ce que vous voulez que je vous parle de Covidia, Patrick?
Mais oui, vous êtes aussi...
Alors je vais vous en parler, Covidia.
Vous êtes aussi là
Covidia,
pour ça.
C'est quoi?
En gros, c'est quoi? Ça fonctionne par... C'est une sorte de scan de la population, par échantillonnage, on peut le dire comme ça?
Exactement. Et d'abord, les mots-clés. D'abord, c'est un projet qui est parti de chercheurs, de scientifiques, de spécialistes de l'intelligence artificielle, des mathématiques de haut niveau. Ils sont français. Parce que vous savez, en France, il y a des gens qui travaillent bien, il y a des gens qui ont des idées, il y a des gens qui sont motivés. Cette consortium, ce groupe de gens, ils travaillent de manière bénévole. C'est pour l'intérêt général. Et ils sont sans conflit d'intérêt. C'est-à-dire qu'ils ne, leur seul intérêt, si vous voulez, c'est d'essayer d'aider le président à résoudre la crise. C'est basé sur l'engagement. Et l'engagement, non seulement de ce groupe d'experts, et aussi des Français. Parce qu'on va mettre à contribution les Français pour nous aider, effectivement, à faire un scan. Alors, je vais prendre un exemple que les gens ont commencé à comprendre, dites de techniques des intelligences artificielles. Si vous me donnez à un ordinateur une dizaine de milliers de photos de chats à analyser, et que vous lui représentez ultérieurement une nouvelle photo qu'il n'a jamais vue, eh bien, aujourd'hui, il est capable de reconnaître un chat. Ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Et puis, si vous lui donnez des chats à reconnaître, et que vous lui montrez un chien, eh bien, dans l'apprentissage non supervisé, il peut éventuellement reconnaître et dire que c'est un chien. Donc, cette technique-là consiste à faire quoi? Consiste à rentrer un certain nombre de données. Ces données sont analysées, elles sont anonymisées, elles sont agrégées et elles comprennent des éléments concernant la santé, les tests d'un certain nombre de gens. Nous, on considère qu'à partir d'une centaine de milliers de tests réalisés, on pourra avoir une assez bonne image, une bonne cartographie, et puis ensuite des éléments de leur mobilité. Et donc, c'est là que les téléphonies mobiles, les gens qui nous ont fourni des lignes téléphoniques, pourraient nous aider à faire une cartographie, c'est-à-dire à voir comment la pandémie se déplace dans le temps et dans l'espace. Donc avec ces outils de l'intelligence artificielle, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques si vous voulez, mais la promesse, c'est de dire que assez vite finalement, et à condition qu'on ait accès à ces données, ça c'est pas de notre sort, c'est du président de la République, qui sont des données contrôlées avec la CNIL, avec la Comité nationale d'éthique, avec toutes les bonnes autorités qui vont bien, eh bien on va pouvoir regarder un certain nombre de paramètres très simples, extrêmement simples, concernant le sexe, l'âge, le poids, l'endroit où vous habitez, la commune, hein, pas plus que ça, et puis des paramètres, est-ce que vous avez ou non été malade, est-ce que vous êtes connu pour être Covid ou pas Covid, ça on va le rentrer au fur et à mesure que les tests vont être mis en place, et on dira, bah, par exemple, Monsieur Cohen, aujourd'hui, avec un pourcentage de chance qui est très importante, nous pensons que vous êtes Covid plus. C'est-à-dire que comme vous avez, il y a une vingtaine de jours encore, vous êtes déplacé, vous avez rencontré beaucoup de monde, vous avez possiblement été contaminé, mais comme vous avez fait soit de manière asymptomatique, soit avec une petite grippette, une petite forme de la maladie, vous êtes immunisé, donc vous pouvez reprendre vos activités normales. Ouais. C'est ça la promesse.
Donc chacun serait averti de son propre facteur de risque, mais ça suppose aussi, comme dans le projet qu'on évoquait juste avant, de confier volontairement à une autorité publique une partie de ses données personnelles aussi.
Alors, c'est le sujet. Alors le sujet, c'est quoi? C'est de dire, nous d'abord, nous n'avons pas besoin de toutes vos données personnelles. On n'a pas besoin de savoir que vous êtes allé faire les courses là, vous êtes allé voir quelqu'un là, etc. On va juste avoir des données qui vont être de toute façon contrôlées par la CNIL, par la CCNE, la Comité nationale d'éthique, par une autorité compétente qui serait, parce que tout ça n'est pas décidé naturellement, qui serait identifiée par le président de la République pour vérifier à quel niveau d'information on peut aller. Et nous pensons qu'on n'a pas besoin d'aller très très loin. Je vous ai dit quelques éléments de votre profil médical. Est-ce que vous avez eu ou non une maladie ou est-ce que vous étiez à risque d'avoir fait Covid? Quelques éléments de votre déplacement dans des séries temporelles de votre déplacement, par exemple entre des communes. Et puis, on va regarder des données plus générales sur les communes elles-mêmes, sur la densité de population, sur leurs chiffres en termes d'incidence de la maladie à l'intérieur de ces communes, etc. Et à partir de ces éléments, on va pouvoir faire la cartographie. Alors, vous avez raison, il faudra qu'il y ait un engagement. Et cet engagement, il va être de différentes natures. Il va d'abord être la base de volontariat des individus. Moi, je vais vous prendre un exemple parce que les entreprises françaises vont jouer un rôle fondamental dans cette affaire. Moi, je suis, par exemple, conducteur SNCF. Et puis, où je travaille dans le nucléaire. Et actuellement, mon entreprise, elle travaille un peu en conditions un peu difficiles, voire dégradées. Et pourtant, on a vraiment besoin que les trains emmènent des patients dans l'ouest de la France ou que les centrales nucléaires continuent à fournir de l'énergie sans qu'on prenne des risques pour notre santé. Dès lors, l'entreprise et le collaborateur de l'entreprise a tout à fait intérêt à vouloir savoir où est-ce qu'il en est de ses tests. Et il accepte de manière temporaire, contrôlée, temporaire, vous entendez, temporaire, contrôlée, qu'on puisse avoir quelques informations sur lui, qui sont celles que je vous ai indiquées et qui peuvent être également récupérées par les données de téléphonie mobile. Dans ce contexte, ces gens-là participent de manière généreuse, de manière volontaire à la constitution de la base de données qui permet, avec le travail des informaticiens et des gros ordinateurs, des supercalculateurs, de dire et de faire la promesse que très rapidement, le plus vite possible, sans attendre un an, on pourra dire à ce collaborateur qu'il est Covid plus ou il est Covid moins et que par exemple on fasse travailler les gens avec que des Covid plus les uns à côté des autres, soit les gens que des Covid moins à côté des autres parce qu'il n'y a pas de risque, soit éventuellement des Covid moins mais qui sont pas des gens à grand risque, c'est-à-dire qui sont des jeunes, qui n'ont pas d'antécédents, pas de facteurs de risque et ils pourraient éventuellement travailler sans savoir réellement, en tout cas avec éventuellement des risques de faire Covid mais pas du tout important. Voilà
dans votre scénario,
le concept si vous voulez.
Dans votre scénario, Alexandre Mignon, ça va durer combien de temps? Quand peut-on espérer retrouver une vie sociale normale sans se soucier de savoir qui est naïf et qui ne l'est pas, qui est immunisé et qui ne l'est pas?
Mais écoutez, Patrick Cohen, si on avait la possibilité de faire les 67 millions de Français testés dans la semaine qui vient, la réponse serait on est déconfiné dès la fin de la semaine. Mais c'est pas possible. Donc moi, je crois que le gouvernement, le président de la République, le conseil scientifique vont se réunir, ils vont décider, ils vont faire le mieux possible pour les Français. J'ai aucun doute qu'ils feront le mieux possible pour les Français. Nous pensons qu'avec la solution d'intelligence artificielle, on peut faire mieux, plus vite. Et d'ailleurs, il n'y a pas que nous qui pensons ça, parce que vous savez, on entend pas beaucoup parler des grands groupes Google, vous voyez les GAFAM, les BATX, mais ils ont déjà probablement ces données sur nous. Ils les ont parce qu'ils ont un certain nombre d'informations en termes de mobilité, en termes d'activité. Ils savent si on est allé à la pharmacie, ils savent si on est allé au cinéma ou pas, parce qu'avant le confinement, on peut faire des cartographies, si vous voulez. Et donc, toutes ces activités se sont réduites. Donc, si on les laisse faire bon, on les laisse faire, mais si on profite qu'en France, il y a une initiative qui est honnête, dynamique, intelligente et basée sur les compétences de la France, parce qu'en France, on a tout un tas de gens qui sont extraordinaires, notamment nos ingénieurs d'informatique, de data science, ils sont chassés partout, ils sont allés dans la Silicon Valley, ils sont allés au Canada, ils sont allés à Londres, ils peuvent rester à Paris pour travailler pour la France. Et donc, du coup, si Monsieur Macron, le président, donne accès à un certain nombre de données, de data, de manière temporaire, contrôlée, alors on peut démarrer le projet, ouais. Et on peut lui donner probablement un début de réponse dans le mois qui vient, avec, je complète ce que je viens de vous dire, avec la possibilité que chaque fois qu'une nouvelle donnée arrive, eh bien, le modèle s'affine, il devient de plus en plus performant, pertinent. Comprenez ?
Merci, c'est le projet Covidia, et merci professeur Alexandre Mignon de nous l'avoir exposé et d'avoir échangé avec nous ce matin. Europe 1.